All right, now listen, kids. Come on, places, please. It's Boogie Barker Road from the top, and I'll do it with you. You ready? Music! Now give me some nice straight lines, please. Go!
1, 2, 3, 4.
Corps et danse au cinéma, un podcast présenté par le BTS audiovisuel du lycée des Arènes.
1 and 2 and.
Épisode 5, la danse de Pina Bausch à travers le documentaire.
On compte généralement, dans la seconde moitié du XXe siècle, deux grandes figures révolutionnaires de la danse. L'américain Merce Cunningham, Einstein de la danse, maître adoubé du minimalisme abstrait, et l'allemande Pina Bausch, grande et frêle dame de Wuppertal, géniale inventrice de la danse-théâtre expressionniste. Autour de Pina, à Wuppertal, l'admiration de générations entières de cinéastes.
La plupart des réalisateurs s'intéressent particulièrement à la période de création de Pina Bausch, qui s'étend de 77 à 90 environ. La raison est simple, c'est la période où ses pièces sont les plus politiques et les plus scénarisées. Des chorégraphies comme Walzer ou Nelken proposaient une dramaturgie assez complexe qui mélangeait deux types de références cinématographiques. D'un côté, on avait le cinéma expressionniste à la Murnau et les mouvements épiques et grandiloquents, façon Fellini. De l'autre côté, le cinéma de la Nouvelle Vague. Elle avait l'art de partir dans de petites histoires anecdotiques, premier baiser, première gifle, première douleur, pour sonder les grands invariants de l'âme. Chaque chorégraphie, c'était un rapiéçage savant de petites histoires personnelles avec une façon assez baudelairienne de mettre en mouvement l'individu face à la puissance du collectif.
La devise de Pina Bausch était « Danse, sinon nous allons nous perdre ». Elle était sincère. Cette danse était sa réponse à la vie et aux problèmes qui peuvent survenir. C'était sa réponse pour tout, de danser.
Rythmé par la musique que l'on vient d'entendre, le film Pina de Wim Wenders va sûrement marquer un tournant. Pour la première fois, la technologie 3D numérique sort du genre de la science-fiction pour s'intéresser à la danse d'auteur. Une technologie que Wim Wenders estimait être le seul moyen pour rendre hommage à l'art de Pina et afin de lui consacrer une œuvre digne d'elle.
Il faut avouer que le mouvement est extrêmement bien filmé et que la high-tech sort de l'anecdotique.
C'est un film tourné dans des circonstances particulières. Pina Bausch et Wim Wenders étaient de grands amis et avaient projeté ce film depuis plus de 20 ans. Au moment où, en 2009, Wenders trouve enfin le mode de filmage adéquat, Pina Bausch meurt. Après la mort de Pina, Wim Wenders ne désirait plus réaliser ce film. Ce sont les danseurs qui l'y ont poussé, car ils voulaient à tout prix lui rendre hommage. Le film Pina peut donc être considéré comme un hommage et une dernière danse pour eux. Un échappatoire pour leur corps en deuil, en tant que personne qui a marqué leur vie. Ici, le corps est montré comme une rétrospective de la vision de Pina Bausch sur la danse.
J'ai jamais, jamais voulu danser Café Muller. Quand Pina m'a demandé d'apprendre son rôle, j'ai dit oui, mais je ne l'ai pas appris. J'avais envie qu'elle danse toujours. J'ai beaucoup vu Pina dans Café Muller et j'ai surtout essayé de sentir ce qu'il se passait à l'intérieur d'elle. C'était comme un trou dans son ventre quand elle marchait, comme si elle était au royaume des morts. Quand je me retrouve sur scène, aujourd'hui, j'essaye de me souvenir d'elle. Cette peine et en même temps cette force et cette solitude.
C'est un film sur le deuil, voire sur l'impossibilité du deuil. Et c'est sûrement une erreur, car les danseurs du Tanztheater de Wuppertal ont été interviewés au pire moment, et on n'évite pas la dérive mélodramatique. Pina Bausch apparaît de ce fait comme une sorte de figure idolâtrée et les danseurs comme des êtres perdus sans leur gourou. Les témoignages sont assez simplistes alors que je connais suffisamment les danseurs pour savoir à quel point ils ne le sont pas. Je ne suis pas persuadé que le film de Wim Wenders rende hommage à cela.
Il y a beaucoup de plans d'ensemble ou larges pour bien montrer tout le mouvement. Wim Wenders place la caméra comme si nous étions dans le public pour montrer l'ensemble de la scène et cela rend le spectacle plus immersif puisqu'il peut également se permettre de se rapprocher et d'obtenir des cadres inaccessibles depuis le public. Le spectateur est omniscient puisque les spectacles sont entrecoupés de flashbacks, ce qui donne ce résultat si complet et qui permet de bien comprendre les intentions de Pina Bausch. La caméra est fixe, on n'entame que des mouvements très amples pour laisser parler le mouvement des danseurs et ne pas les parasiter. Il interviewe les danseurs sans les montrer en train de parler et utilise juste leur voix en fond, comme si on lisait en eux, comme pouvait le faire Pina. Wim Wenders s'emploie également à faire correspondre les images avec des archives pour pouvoir la montrer en train de danser comme les spectateurs qui s'approprient son rôle. C'est pour ça aussi qu'il fait rejouer les spectacles dans la nature. Il veut leur donner une nouvelle couleur et une nouvelle vie, puisque le corps soit confronté à des obstacles naturels auxquels il doit s'adapter. Il y a vraiment la volonté aussi de créer des tableaux à travers le corps des acteurs.
Il faut savoir que, particulièrement dans les débuts, Pina Bausch recrutait ses danseurs moins sur la dextérité de leur danse que sur la profondeur de leur être. Et cela apparaît de façon certaine dans son propre film. Les rêves dansants, c'est un documentaire sur la reprise d'une pièce culte de Kontakov avec des adolescents de Wuppertal. Elle avait une façon d'aller chercher dans une personne ou un groupe entier ce qu'il y avait de plus profond. Le film donne ainsi l'occasion de comprendre le processus de création de Pina Bausch, basé sur les témoignages personnels des danseurs. Il fallait être très mûr, très fort pour danser les pièces de Pina, et l'on voit ces adolescents comprendre peu à peu cet enjeu-là.
La séquence clé ? Je dirais pour moi que c'est celle où Béatrice Libonati et Joséphine Anne Andigott, deux des plus grandes danseuses de Pina Bausch, montrent les mouvements aux enfants. Elles transmettent leurs gestuels. On perçoit d'ailleurs alors le fossé entre ces grands danseurs et de jeunes amateurs. C'est d'autant plus troublant que la danse de Kontakov n'a rien d'a priori virtuose.
Le documentaire montre donc les répétitions et l'avancement du projet pour montrer les progrès effectués et en expliquer l'aboutissement. La réalisatrice Anne Linsel s'attache donc à filmer le rapport au corps de l'autre, les contacts. Pour filmer une telle danse, il faut rester attentif à l'inattendu et disponible à la surprise. Il faut également retranscrire la singularité d'un instant, d'une action, à travers un cadre ou un mouvement de caméra. Mais tout ne passe pas par le mouvement. Justement, pour en comprendre les intentions, il faut également percevoir celles de l'esprit. Et cela passe par le regard. Il s'agit également de capter les nuances, le juste du faux. Et on en a un très bon exemple à travers l'expérience du lâcher-prise. L'euphorie est retranscrite par un panoramique à 360, et on nous fait percevoir justement les nuances de ce lâcher-prise. Et justement, lorsqu'il n'est pas suffisamment acquis, à quel point il peut être faux. Finalement, on retrouve les mêmes danseuses dans Les rêves dansants de Pina Bausch et dans Pina de Wim Wenders. Ce qui nous donne également l'occasion de voir les progrès de celle-ci.
Elle parle d'amour, de douleur, de beauté, de chagrin et de solitude aussi. Mon aventure avec l'hippopotame, j'avais 28 ans lors de cette pièce. Je l'ai même identifiée à elle, à ce monstre énorme. J'essayais de comprendre pourquoi elle n'arrêtait pas de travailler. Travailler et encore travailler.
Pina la douce, ni bonne fée, ni sorcière. Pina pleine d'histoire, l'histoire d'apprendre à vivre tout simplement. Chez elle, un peu plus intensément qu'ailleurs. En tout cas, avec talent.